Voilà, donc je vais faire une courte introduction pour situer le sujet, présenter notre invité. Nous avons évoqué ce sujet du private equity en secondaire avec chacun d'entre vous quasiment. Je reviens sur les termes du titre, private equity secondaire. Private, ça veut dire privé, non coté, parce qu'en anglais, public signifie coté en bourse. Equity, ça veut dire capital. On parle aujourd'hui d'investissement en capital, c'est-à-dire en actions et non pas en obligations ou titres de créance, comme on avait fait il y a quelques années. Et secondaire, enfin, ça veut dire de seconde main sur des deals déjà lancés. Et là, Luc vous expliquera davantage en quoi ça consiste. Donc cette année, nous avons proposé de se tourner vers l'investissement non coté, au-delà de la simple défiscalisation au titre de l'ISF, à laquelle vous êtes habitués pour beaucoup d'entre vous. Et nous avons fait un tour d'horizon sur le vrai private equity, comme les professionnels. Alors pourquoi ? D'abord pour s'affranchir de la volatilité des marchés. Le private equity n'est pas réévalué en mark to market. L'année 2016 s'y prête parce que le CAC oscille de 5 à 10% toutes les 3 semaines. Donc vous pouvez avoir envie d'avoir une partie de votre portefeuille non liée à ces fluctuations. Ensuite, pour trouver du rendement dans un monde de taux bas, le TRI attendu est en private equity de l'ordre de 7 à 15%, ce qui dans un monde de taux à moins de 1% fait rêver. Enfin, diversifier son portefeuille sur des actifs réels, tangibles, en accompagnant des secteurs de croissance de demain, ce qui est vraiment motivant plutôt que de regarder des écrans et essayer d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Alors bien sûr, il faut appréhender les inconvénients. Chacun n'investit que s'il est à l'aise avec les avantages et les inconvénients. Le premier problème, c'est le risque, bien sûr. Qui dit rendement dit risque, plutôt au pluriel. Les risques sont de plusieurs sortes. Mais les risques, ça se maîtrise, ça s'évalue du moins, et c'est là que le secondaire apporte un vrai plus. Le deuxième problème, c'est la non-liquidité. Tout investissement de ce type est bloqué minimum 5 ans, plus souvent 10. On n'y met donc que le capital dont on n'a pas besoin dans les prochaines années, les prochaines 7 à 10 années. Aujourd'hui, le rendement, c'est au prix de cette indisponibilité partout, même pour le fonds euro de l'assurance vie. Vous avez dû entendre l'article numéro je ne sais plus quoi de la loi Sapin 2 de cet été, hein, c'est un problème partout. Cette classe d'actifs du private equity est une classe d'actifs à part entière, bien connue des institutionnels depuis des années déjà. Elle représente souvent 10% de leurs investissements. Les particuliers commencent à se voir proposer des supports pour eux sous forme de fonds à fiscalité allégée, type FCPR, fonds communs de placement à risque, ou FPCI, fonds professionnels de capital investissement. Alors sur ce tour d'horizon du private equity, je vous avais présenté en avril 3 partenaires qui déclinent pour les particuliers des fonds réservés aux institutionnels. Avec 1-2-3 ventures, nous avons accompagné les fonds maîtres chez Activa Capital, Partec Growth, KT Capital. Avec Parvillage, vous avez proposé un fonds en allocation mixte entre fonds et participation directe. Et nous attendions Idinvest pour son FCPR en secondaire avec une forte visibilité et un horizon un peu plus court, le gros avantage à mon avis. Le voilà donc ce soir. Avec Idinvest, nous avons un vrai acteur du private equity et du private debt qui travaille avec des institutionnels depuis 15 ans et dont le terrain de jeu est l'ETI, l'entreprise de taille intermédiaire de moins de 200 millions donc. Nous les avons déjà suivis en 2013 et 2014 sur des fonds de dette privée qui se portent bien, beaucoup d'entre vous en ont. Le fonds dont nous allons parler ce soir nous a paru réunir les avantages suivants. Il est dans l'univers du non-coté, donc cette fameuse décorrélation du marché action-coté, c'est son premier avantage. Il est en secondaire, donc avec un profil de risque équilibré, mutualisé. Il offre un fort rendement et une bonne visibilité à un horizon raisonnable entre 5 et 7 ans. Le tout à fiscalité nulle puisque sous forme de FCPR pour les particuliers que nous sommes. Et donc, je laisse la parole à Luc Marimanda qui va nous parler du marché du secondaire en private equity en général, puis de ce fonds dit d'invest en particulier. Luc, c'est à toi.
Oui, bonjour Sylvie, bonjour messieurs, dames. L'idée sur une grosse vingtaine de minutes, c'est de vous brosser un tableau forcément parcellaire, mais le plus compréhensible possible sur ce que nous faisons. Alors, chez Idinvest, on gère 7 milliards d'euros qui sont dédiés exclusivement au financement d'un côté d'entreprises européennes, avec des stratégies qui vont du capital risque à la dette privée et au fonds de fonds et à l'investissement secondaire, qui est une stratégie accessoire de ce que nous faisons. Notre clientèle, c'est 80% de clients institutionnels pour un peu plus de 5,5 milliards d'euros et des clients particuliers pour environ 20%, donc environ 80 000 clients. Voilà. Ce qu'il faut déjà dire pour introduire le sujet, c'est que, comme le disait Sylvie, le marché du private equity à 99,9%, c'est un marché de professionnels. Les gens qui investissent sont des fonds de pension, des caisses de retraite, des fonds souverains, des banques, des assureurs, dans une toute petite minorité des family office. Et tout ça, c'est un volume à peu près global dans le monde de 4000 milliards à peu près. C'est des gens qui investissent de l'argent long, qui ont besoin d'investir de manière régulière des montants importants. Si on prend Allianz, leur allocation stratégique au private equity, ça représente environ entre 800 millions d'euros et 1 milliard par an, qui est vendu, qui doit être investi tous les ans dans ces classes d'actifs. Donc ces gens sont tous sauf des plaisantins, sont des gens très sérieux, qui ont besoin de reporting de qualité, d'un environnement très professionnel. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils déploient leurs investissements, non pas dans l'univers des petites PME, parce que c'est pas ce qui les intéresse, ils veulent pouvoir déployer du capital à l'échelle, sur des grosses opérations. Donc on est essentiellement sur des opérations de capital transmission, ce qu'on appelle les buy-out aujourd'hui, sur l'environnement des grosses entreprises non cotées européennes. Donc c'est un petit peu plus haut que ce que vous disiez Sylvie, c'est plutôt entre 200 et 500 millions d'euros. Ces grosses sociétés ne sont pas cotées en bourse pour des raisons très simples, c'est qu'elles fonctionnent très bien, elles sont financées par de l'argent professionnel et elles n'ont aucun intérêt à subir la volatilité des marchés. Donc ça, c'est une première chose. C'est des sociétés qui sont plutôt très bien gérées parce que, de manière fondamentale, dans le long côté par rapport à tout ce qu'on peut avoir sur les marchés cotés, on est systématiquement dans des environnements où l'actionnariat est réduit, ce qui veut dire qu'il y a systématiquement un alignement d'intérêt entre les managers et l'actionnariat, ce qui n'est pas forcément le cas dans les sociétés cotées. Ce qui fait qu'au global, le private equity a une meilleure performance que les marchés cotés, mais avec évidemment une absence de liquidité. Donc ça peut écarter beaucoup d'investisseurs de ce marché. Alors après, la place des particuliers dans ce marché, elle est très très réduite. Elle est réelle en France, suite notamment à tout ce qui est défiscalisation, mais essentiellement quand même sur des petites PME, sur des stratégies de venture capital, donc qui sont relativement risquées. C'est aussi possible en Angleterre un petit peu aux États-Unis, mais voilà, ça s'arrête là. Donc vous avez très peu de capacité d'exposition à ces classes d'actifs. Tous ces gens qui rentrent sur le marché du private equity, donc les institutionnels, ils sont sur des transactions ils rentrent sur des fonds d'investissement sur des durées longues, et il se trouve qu'il y a à peu près 1% de ce marché qui a besoin de respirer, c'est-à-dire que des investisseurs doivent se désengager d'un programme d'investissement avant le terme pour des raisons qui sont indépendantes à la nature de l'investissement. Ça va être dans les différents cas de figure, ça va être dans un premier temps des grandes institutions financières qui cèdent des actifs, notamment pour des pressions réglementaires. Alors on a vu ça avec les banques et les assureurs avec Solvency II et Bâle III, hein, après la crise de 2008, où on a vu des programmes de cession de plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été lancés par des banques, par des assureurs dans toute l'Europe, aux États-Unis également. On voit les fonds souverains aujourd'hui, notamment dans les pays du Golfe, qui avec le prix du pétrole très bas, sont en déficit et donc puisent dans la réserve. Ça veut dire que les fonds souverains cèdent une partie de leurs actifs, donc il y a du non-coté qui sort également, qui vient alimenter le marché. Vous avez les asset managers qui en général sont de plus en plus sophistiqués, enfin les gros asset managers de private equity, qui de plus en plus sophistiqués, et en général, quand ils voient qu'au bout de 6, 7, 7, 8 ans, le portefeuille n'a pas tourné, ils ont tendance à vouloir effectivement trouver des liquidités sur le marché. Plus près de nous, des family office qui, pour des raisons de gouvernance, quelquefois, font des revues de portefeuille et souhaitent céder des lignes. Et puis enfin, les fonds private equity qui, pour simplement des raisons en fait de liquidité aussi, participent à ces opérations secondaires, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un fonds d'investissement en buy-out dans le monde européen, qui n'est pas très important, ce n'est pas des grosses sociétés, c'est souvent une équipe de 5 ou 6 partenaires qui vont gérer 400-500 millions d'euros. Donc au total, ça fait une PME de 20-30 personnes. Ces gens-là, ils ont 20 premiers fonds. 5 ans plus tard, ils enlèvent un second. Au bout de 10 ans, ils gèrent leurs 500 ou 800 millions ou 700 millions d'euros. Ils voudraient lever un fonds numéro 3. Sauf qu'avant de lever leur fonds numéro 3, leurs investisseurs leur demandent de rembourser l'argent du fonds numéro 1. Et si des opérations prennent un peu de temps pour se déboucler, ben aussi ont besoin de trouver de la liquidité. Donc ce marché, voilà, il est alimenté de manière assez régulière. Ça représente aujourd'hui à peu grosso modo environ 40 milliards dans le monde. Et le marché adressable pour Idinvest, dans le segment des mid-cap européens, c'est une petite dizaine de milliards. Il faut savoir qu'il y a des très gros acteurs sur ce marché, des très gros fonds anglo-saxons, des acteurs européens très gros aussi, notamment comme Ardian, par exemple, hein, qui est anciennement AXA Private Equity. Alors eux, quand ils font une grosse opération, ils ont des fonds de plusieurs milliards, quand ils font une opération secondaire, ils vont racheter pour plusieurs centaines de millions d'euros, c'est des processus d'enchères. Quand ils gagnent un deal, ils sont sûrs d'une chose, c'est qu'ils ont payé plus cher que les autres. Nous, on est sur une approche un petit peu différente, on est sur une approche qui est très propriétaire, en ce sens où on travaille beaucoup avec les fonds d'investissement qui nous contactent en direct. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que, encore une fois, la stratégie secondaire, je vous disais, c'est pas des gros volumes par rapport à la totalité du marché private equity, et ça ne peut être qu'une stratégie accessoire d'autres stratégies. Et il se trouve que chez Ininvest, on est très présent en fonds de fonds, et ça depuis 18 ans, depuis qu'on a été créé par Alliance, puisque quand le groupe Alliance avait créé Ininvest, qui s'appelait initialement AGF Private Equity, c'était pour développer son allocation stratégique, notamment au private equity, à travers un programme fonds de fonds. C'est-à-dire que nous avons eu mandat pour investir 1,5 milliard à peu près pour le compte du groupe Alliance dans l'écosystème du capital transmission européen. Et donc nous avons déployé cet argent en plus de 200 fonds d'investissement dont le métier est de monter des opérations de LBO dans le secteur de ce mid-market, entreprises qui ont jusqu'à environ 500 millions de valorisation. Ça veut dire que ce marché, on le connaît de la cave au grenier, on a tous les track records des fonds, on a vécu avec eux leurs opérations depuis plus de 18 ans. Et ça n'a pas de prix parce que ce sont des informations qu'on ne peut pas acheter aujourd'hui sur le marché. Encore une fois, ce que vous dites, Sylvie, c'est du private equity, donc seules les parties intéressées aux opérations disposent de l'information. Les parties qui sont tiers ne disposent pas de l'information. Donc ça, c'est un gros avantage. Et typiquement, un fonds de private equity, quand il a un problème de liquidité, c'est-à-dire quand un de ses investisseurs souhaite se désengager d'un fonds d'investissement, hein, on va prendre un exemple, hein, on parlait de Partech tout à l'heure. Partech, c'est pas un bon exemple parce que c'était Capital Risque, mais peut-être LBO France hein, qui fait du buy-out. Il a un fonds de 500 millions, il a un investisseur qui est une mutuelle quelconque, qui a mis 30 millions dans le fonds et qui souhaite se désengager pour une raison indépendante de la gestion de LBO France, eh ben, ils vont les contacter, ils vont leur dire qu'ils souhaitent avoir une liquidité, et le fonds d'investissement à ce moment-là ben, va appeler autour de lui ses contacts proches, dont il sait qu'ils peuvent potentiellement être acheteurs, pour trouver une solution en direct, avant d'en parler à des intermédiaires s'ils ne trouvent pas de solution. Et donc ces gens-là, ils appellent Ininvest parce qu'ils savent qu'on est dans le marché. Et nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'en l'espace de 3 semaines à mois, on puisse répondre à 3 questions. Est-ce que le fonds d'investissement qui nous contacte, est-ce que c'est des gens avec lesquels on aimerait travailler? Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'on aime leur portefeuille? Est-ce qu'on est capable de le comprendre en profondeur, de l'évaluer? Et 3, est-ce qu'on est capable de faire un prix? Pourquoi? Parce qu'en général, quand on travaille sur le marché secondaire, le fonds, les parts du fonds ont une valeur liquidative, mais comme on apporte une liquidité à mi-parcours, ben en général, il y a une petite décote. S'il n'y a pas de décote, forcément, on aura le deal, mais on n'aura peut-être pas forcément le rendement attendu in fine. Et si on propose une décote trop importante, on n'aura pas le deal, et donc on ne fera pas l'affaire. Donc c'est toujours pareil, c'est très important d'être dans ce marché, de bien le connaître, de pouvoir l'apprécier, pour pouvoir faire une opération. Une fois qu'on a dit ça, il y a aussi une composante qui est très importante que vous comprenez, qui est la suite logique de ce que je vous dis, c'est que quand on fait un investissement secondaire, on n'achète pas une ligne sur un portefeuille, on achète un portefeuille. C'est-à-dire que une transaction secondaire, c'est en moyenne une dizaine de sociétés. Le gros avantage, c'est que sur un fonds d'investissement comme le CPR Strategic Opportunities, eh bien, on va être exposé à travers une dizaine de transactions à une centaine d'entreprises. Donc une grosse diversification dans tous les secteurs de l'économie, hein, parmi les hymnes, dans différents millésimes, si bien que ben voilà, c'est le, on va dire que le couple rendement risque, c'est plutôt pas mal parce qu'on a, parce que la diversification fait que si jamais une boîte tombe, ça peut arriver, hein, ben on ne met pas le fonds à risque. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le, les études publiées par l'AFIC, notre association française professionnelle de l'investissement en capital, nous dit dans ses baromètres qu'en moyenne, 95% des LBO fonctionnent. Les 5% vont au tapis. Donc si on est effectivement, si le fonds est sur un de ces 5%, forcément il perd son argent. Mais dans la mesure où il est bien diversifié, ben, on considère que le risque est relativement modéré. Donc ça, c'est déjà très important. Ensuite, après, ce qui est important, c'est de bien comprendre le timing d'une opération. Hein. On est donc sur un fonds qui est très diversifié parce qu'on achète des portefeuilles. Ces portefeuilles, on ne les gère pas en direct. Typiquement une opération de LBO montée par un fonds de LBO. Le fonds de LBO, ce qu'il fait, c'est que ce fonds de private equity, il va manager une quinzaine d'opérations dans lesquelles il est ultra majoritaire parce que dans une opération de LBO, vous avez l'argent professionnel qui est apporté par le fonds d'investissement qui apporte le financement, et puis l'équipe de managers, qui sont des personnes physiques, qui sont souvent très minoritaires par rapport au fonds d'investissement. Donc nous, quand on fait une transaction secondaire, soit on rachète les parts du fonds, parce que dans l'exemple que je donnais, la mutuelle souhaite sortir, auquel cas on rachète tout le portefeuille, toutes les belles sociétés du portefeuille, mais aussi les moins bonnes, hein, parce que dans un portefeuille, on n'est jamais à 100% d'excellence, il y a toujours des entreprises un petit peu moins bonnes que les autres. Et donc tout ça, ça se compense par une décote à l'achat. Et puis il y a aussi le cas des fois où nous on va voir un fonds d'investissement où un investisseur, on lui dit voilà, on aimerait vous racheter une partie de votre portefeuille. On rachète pas tout le portefeuille, à ce moment-là on en rachète une petite partie. Et donc on va dire bah, vous avez 15 entreprises en portefeuille, on aimerait vous racheter une petite dizaine parce qu'on prend les meilleurs. On vous propose juste de racheter une petite portion du capital de ces entreprises, 15 à 20%. Si fait que le fonds reste majoritaire, et dans tous les cas de figure, hein, ces portefeuilles d'activités d'entreprises que nous rachetons, le fonds d'investissement qui avait monté les opérations au départ en conserve la gestion. C'est très important parce qu'on ne veut pas perturber les managements dans l'entreprise sous-jacente, on ne veut pas toucher à la gestion, on considère que le fonds d'investissement, quand il a monté une opération, il est compétent, on fait une opération avec lui, c'est qu'on lui fait confiance, et donc on lui délègue la gestion. Donc c'est pour ça qu'il y a cet aspect un petit peu fond de fond sur notre FCPR. On ne gère jamais les sociétés en direct, elles sont toujours gérées pour notre compte par les fonds d'investissement qui ont monté les opérations en direct. Par contre, ce qui se passe, c'est que nous, on rentre dans ces transactions en mi-parcours. Donc le gros avantage, c'est qu'on va sortir beaucoup plus vite. Et nous, ce qu'on constate sur nos opérations, ce que vous avez je ne sais pas si vous avez les slides, mais quand on vous montre les transactions matures sur des cycles courts, en fait, on est sur des opérations dans lesquelles, si un fonds d'investissement a à peu près 4 à 5 ans à déployer son capital, chaque opération du fonds va durer en moyenne entre 5 et 7 ans. Donc nous, on aime bien entrer quand le fonds a déjà intégralement déployé son capital et qu'on a du recul sur le portefeuille du fonds, qu'on puisse apprécier la qualité du portefeuille, apprécier un petit peu comment les opérations individuellement se déroulent, est-ce qu'elles se déroulent en conformité par rapport au business plan, est-ce qu'il y en a une ou deux qui ne fonctionnent pas, ça nous permet d'avoir une bonne compréhension très fine. Donc de faire un prix, de pouvoir bien apprécier là où nous mettons les pieds. Après, l'avantage aussi, c'est qu'on va ressortir beaucoup plus vite. Donc, deuxième caractéristique très importante de l'investissement secondaire, à côté de la diversification, ce sont des cycles courts d'investissement. C'est de l'argent qui tourne en général sur une durée de 3 à 4 ans. Voilà. Donc des TRI relativement élevés. Le type d'opération qu'on peut vous montrer, c'est des entreprises, on a extrait parmi un portefeuille de secondaire, qui est un fonds d'investissement qu'on a lancé en 2012. Notre fonds qui s'appelle IDAMEF Secondary Fund numéro 2, c'est un fonds de 228 millions d'euros. Et sur ce fonds-là, on a sorti les 20 plus grosses sociétés que Sylvie vous montre dans sa présentation. Ce sont des sociétés qui ont des croissances, vous voyez, des croissances relativement moyennes, des rentabilités moyennes aussi. Bon, elles sont un petit peu améliorées sur les périodes 2013-2015, mais on est sur des croissances qui sont de l'ordre de 10-15%. Aujourd'hui, sur des rentabilités qui sont d'environ 15 également, ce qui fait qu'on est sur des boîtes, voilà, on est dans l'économie de tous les jours, on est sur les belles PME, les belles grosses PME. Hein. Vous en avez quelques exemples. On parle, je crois que vous avez mis des exemples en annexe, on parle d'entreprises comme Axin, qui est une agence de recrutement, comme Elis, qui fait des services d'hygiène que vous connaissez sûrement, comme Newrest. Qui est un opérateur de restauration dans les cantines, comme les doudous de Montclair, comme les brasseries Blanc, les brasseries Frères Blanc à Paris. C'est, si vous êtes parisien, c'est une entreprise, un groupe de brasseries haut de gamme à Paris. Vous avez la Maison du Danemark, Flora Danica, Le Pied de Cochon, la brasserie Lip. Et en fait, on a participé à une opération de restructuration dans laquelle le groupe a été vendu au groupe de restauration mené par Olivier Bertrand, donc c'est lui notamment qui a également aujourd'hui des licences Burger King. Grosse opération de 80 millions d'euros. Voilà, et vous voyez que c'est des donc voilà, on est un petit peu dans des clics privés, on est en France, en Scandinavie, on est un peu partout. Le gros avantage de ces opérations, c'est que donc elles ont des cycles relativement courts, c'est ceux qui sont assez rentables. Alors derrière, après, ça interpelle un petit peu sur le fonctionnement de ce véhicule, parce qu'on est sur un CPR fiscal, comme vous l'a dit Sylvie. Alors, ce que fait Idinvest met cette stratégie à disposition des gestions privées pour une raison très simple. C'est que en parallèle, nous avons un véhicule institutionnel qui aujourd'hui notre fonds Idinvest Secondary Fund le numéro 3, c'est un fonds de 400 millions d'euros. Il a fait son premier closing, donc il a disposé de 350 millions. Il va atteindre ses 400 millions d'euros à la fin de l'année 2016. C'est un véhicule professionnel, donc c'est un FPCI accessible à partir d'un million d'euros, donc il n'est pas adapté à des clients particuliers. Et en parallèle de ce produit, nous avons donc créé un FCPR avec un agrément de l'AMF pour faire un peu de public à l'épargne, qui lui est accessible à partir de 20 000 euros, et c'est le produit dont nous parlons aujourd'hui. Et ces deux produits vont co-investir ensemble, sur les mêmes opérations, aux mêmes conditions financières. Donc on a un fonds professionnel qui fera 400 millions, le FCPR Strategic Opportunities qui va lever 75 millions d'euros, et les deux fonds vont co-investir sur les mêmes opérations. Et ça, c'est très puissant. On est aujourd'hui le seul gérant de la place à pouvoir offrir donc une gestion institutionnelle à des clients particuliers. À titre d'exemple, c'est la première fois que l'AMF a agréé un FCPR secondaire. Il a fallu qu'on leur explique un peu ce qu'on faisait parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir ce genre de produits dans la gestion privée. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. On a fait ça en 2012 et entre 2012 et 2015. On avait un programme de dette privée on avait au global 112 millions d'euros. Donc, je crois que certains d'entre vous y ont participé. Et ce programme de 112 millions d'euros, ben, il investit à côté d'un programme de 400 millions d'euros qui s'appelle Idinvest Private Debt, qui est dédié à des clients institutionnels. Et ces deux FCPR, qui sont les FCPR Idinvest Private Value Europe, fonctionnent très bien. Le premier est a fait plus 24% à ce jour de TRI net investisseur depuis son lancement. Et le second, qui a été lancé début 2014, est à plus 12,6%. Voilà, on est sur des TRI annuels d'environ 7,5%. Le fonds qu'on vous propose, c'est un véhicule donc qui est un CPR fiscal, donc en contrepartie de l'avantage qui est l'exonération d'impôt sur les plus-values pour les personnes physiques, il faut un blocage de 5 ans. Ce qui est bien que ce calendrier de ce fonds est un petit peu plus long, puisque on est sur un fonds qui est ouvert depuis juin 2016, qui sera fermé à la commercialisation en juin 2017, voilà, qui ensuite sera fermé pendant 5 ans pour de venir à permettre aux derniers investisseurs qui rentreront fin juin 2017, en contrepartie d'un blocage de 5 ans, de bénéficier de la réduction d'impôt, enfin d'exonération d'impôt sur les plus-values. Donc ça veut dire que ce fonds ne commencera à distribuer qu'à partir de juillet 2022. Donc vous avez un délai de blocage minimum si vous investissez maintenant qui est proche de 6 ans. Et ensuite, les distributions interviendront pour les plus grosses distributions dans l'année qui suivra, c'est-à-dire jusqu'en juin 2023. Le fonds peut potentiellement être prolongé jusqu'en juin 2025. Donc comme je vous le disais, on est sur les stratégies d'investissement qui sont courtes. Ça veut dire que ce fonds, qui a fait son premier investissement. Il a fait ses premiers investissements au mois de septembre. Nous avons participé à une grosse opération avec les programmes institutionnels de 80 millions d'euros. Le fonds n'avait collecté que 3 millions d'euros à la fin du mois d'août, mais ces 3 millions d'euros ont été mis au travail sur un portefeuille de 11 sociétés sous LBO, des boîtes françaises essentiellement. Nous avons acheté un Axicap, qui est un gros gérant français qui gère 2 milliards d'euros pour compte propre. Et nous avons fait une transaction auprès de Nexicap de 80 millions d'euros, dans laquelle le fonds ISO a participé à hauteur de ce qu'il avait, 3 millions d'euros. Donc c'est vraiment là où c'est très intéressant, parce que c'est principalement une opération institutionnelle, et puis on a pu faire participer le fonds pour ce qu'il avait collecté au mois d'août. Et donc on a une première transaction qui se fait maintenant. Ce fonds ISO, il va collecter 75 millions d'euros. Il a pris un engagement vis-à-vis de vous d'investir les fonds collectés au fil de l'eau. Donc c'est ce que nous avons fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ce premier investissement que nous faisons maintenant, on aura probablement sur ce portefeuille de 11 sociétés déjà des débouclements, on va dire, dans un an et demi, deux ans. Donc avant qu'on ait même fini d'investir la totalité de l'argent collecté par le fonds. Et donc cet argent, on va le réinvestir systématiquement. Donc on va faire travailler l'argent de manière systématique, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait du cash qui dorme. Et donc pour un véhicule qui fera 75 millions d'euros, on va probablement mettre au travail quasiment 200 millions, parce qu'à chaque fois, on va réinvestir les plus-values générées. Pour vous, ça va se traduire par une augmentation de la valeur liquidative de la barre, parce qu'il n'y a aucune distribution. Hein. Systématiquement, tout ce qui rentre dans le fonds sera réinvesti jusqu'en juin 2021. Mais en juin 2021, le fonds sera mis en roue libre. Donc les derniers investissements pour une petite partie du fonds seront effectués en juin 2021, de manière à ce qu'on ait le maximum de cash disponible, distribuable en juin 2022, mais le minimum de cash qui dort dans le fonds, parce que c'est pas bon pour la performance. Donc voilà comment on va travailler. Donc ça demande beaucoup de travail de la part de l'équipe de gestion. Mais derrière, ça devrait faire, on attend un multiple égal à deux fois l'argent investi, ce qui se traduit en TRI, on va dire de manière conservative, entre TRI net investisseur, un objectif d'environ 8 à 10%. Donc voilà pour le produit. On est sur deux types de parts. Des parts A, accessibles à partir de 20 000 euros, entre 20 000 et 250 000 euros, ce sont des parts A qui sont chargées à 2,5% de frais de gestion. Au-delà de 250 000 euros, ce sont des parts C qui sont chargées à 1,8% de frais de gestion. Et ensuite, pour nos clients institutionnels, donc à partir d'un million d'euros, on est sur le fonds institutionnel qui lui est chargé à 0,9%. Donc on a une gradation qui est naturelle sur ce type de produit. Et voilà, il y a une commission de surperformance qu'on appelle le carry d'interest dans les produits, comme dans tous les produits non cotés. Ça veut dire que quand vous investissez 100, il faut d'abord qu'on vous rembourse au minimum 130, et au-delà de 130, il y a un mécanisme de partage de plus-value entre Idinvest et vous. Il y a 20% pour Idinvest, 80% pour vous. Mais nous avons pris ce facteur en compte ainsi que les frais de gestion quand on vous annonce un multiple de 2 et des TRI de 8 à 10. Voilà. Il y a aussi une chose qu'il faut avoir en tête, c'est parce que ça pourrait vous surprendre quand vous regardez les brochures commerciales. On est contraint par un décret de 2011 à avoir une transparence totale sur les frais. Et comme je vous l'ai dit, c'est du fond de fond en fait, une stratégie où nous ne gérons pas en direct, nous confions la gestion des portefeuilles sous-jacents à des gérants. Et donc il y a des frais associés à ça qu'on a estimés à 1,4% et donc qui viennent augmenter facilement les frais de gestion du véhicule. Dans la réalité, ce n'est pas le cas puisque ces frais de gestion sont défalqués des prix d'acquisition de nos transactions. Donc ce que vous verrez, la rémunération d'Idinvest, elle est de 2,5% pour les paras et de 1,8% sur les parcelles, et ça s'arrête là. Le reste, ben, c'est les frais qui sont inhérents à ce type de transaction, mais la contrepartie, c'est la diversification qu'on ne pourrait pas faire en direct et les cycles courts d'investissement. Donc ça, c'est aussi une constante de ce marché. Donc voilà, j'ai dépassé mon temps de parole, donc je vais m'arrêter. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.